Nous sommes en novembre 2017 et vous écoutez l'épisode 91 chronique de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Dédé Schutz et ce mois-ci, je suis encore avec celle qui a la voix de radio, comme on lui a dit. C'est Paul Gara. Salut Paul Gara.
Salut Dédé, merci de me recevoir à nouveau. Je vais espérer être à la hauteur du commentaire très flatteur qui m'a été fait sur ma douce voix.
Voilà.
Merci à la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibernet.com.
Et un grand merci à nos tipeurs de soutenir ce podcast. Un merci aussi à la famille Blond, à la famille Blu pour son don en nature. Et merci à Fief, notre dernier tipeur. Alors pour commencer, on va refaire un tour sur les derniers commentaires des épisodes de chronique, parce que comme on fait les retours sur les commentaires dans les épisodes liés.
Commentaires qui étaient plutôt positifs dans l'ensemble.
Voilà, donc sur le 89, on a eu beaucoup de retours positifs. Alors on va un peu vous les résumer. Et on a Grovast qui nous dit qu'il a beaucoup de choses à dire sur le lancement de la saison, mais que ça fait du bien de retrouver de la nouveauté, de la variété et des sujets de fond, quoi. Il a laissé un long commentaire, donc on vous invite à aller voir les commentaires sur le 89, son commentaire.
Oui, on a sur cet épisode, on a aussi Nem qui nous dit que toutes ces nouvelles rubriques sont très chouettes, mais qui espérait que la rubrique jeu du mois n'était pas terminée, et bien évidemment, elle n'était pas terminée. Il a eu satisfaction puisque de nouveaux épisodes sont parus pour cette chronique.
Shirakan nous a aussi dit que ce nouvel épisode avec la nouvelle équipe mérite un commentaire. Et il a beaucoup apprécié cet épisode pour améliorer la qualité et la diversité de nos chroniques.
Voilà, on a également Adrien qui nous dit que la nouvelle saison commence fort, très fort, et qui nous dit bravo à toute l'équipe, bienvenue aux nouveaux. Donc ça fait plaisir parce que moi je fais partie des nouveaux. Et il a très hâte de découvrir les prochaines chroniques. Donc on espère qu'il ne sera pas déçu au fil de l'année.
Ah, et en fait son pseudo, je pense que ça vient de son nom Adrien,
ouais,
en fait.
Ouais, je pense.
Je n'avais pas compris tout de suite. Ouais, non, mais quand tu l'as dit,
ce n'est pas une locution latine. Tu vois, comme ad nihilo. Non, je pense que.
Je me suis dit, c'est peut-être un latin qui dit.
Non. Non, je pense que c'est. Oui, effectivement, je pense que son prénom doit être Adrien. Quel esprit de déduction quand même.
Ah, punaise, bah avec tous ces épisodes de Sherlock qu'on a écoutés.
Ouais, voilà, on est au taquet maintenant.
Voilà. Et pour finir sur le 89, il y a Aldebaran aussi qui nous a dit super épisode, bravo pour les nouvelles chroniques. Donc voilà, c'est les nouvelles chroniques qui plaisent bien à nos auditeurs.
Voilà, et puis sur l'épisode 90, on a également eu un retour de Twin qui nous dit que c'est un épisode solide et qui dessert une mention spéciale à Si le jeu m'était compté, qui est fortiche et divertissant, qui salue également l'initiative du Pionfesseur pour adapter le high concept dans le domaine du jeu, et qui réserve ses éloges également à Ludo Incognito, et qui se félicite d'avoir des rubriques plus intellectuelles, réflexives sur le jeu. Il dit que ça apporte une excellente vision commerciale, production, organisationnelle de l'univers du jeu de société. Et il conclut par « c'est du solide ».
Bah oui, on travaille fort pour arriver à vous donner des chroniques qui ne sont pas juste des reviews de jeux. Pour aller un peu plus loin, c'est un format qui s'y prête à un peu plus de réflexion sur des thèmes.
Oui,
autour du monde du jeu.
Oui, puis ce qui est bien, c'est d'avoir effectivement des chroniques assez diverses pour satisfaire toutes les oreilles, plus ou moins. Enfin voilà, on a des gens qui vont plus rechercher des avis sur des chroniques ou des idées de jeux à essayer, et d'autres qui vont rechercher une démarche un petit peu plus intellectualisée autour du jeu.
Ouais, voilà. Bah voilà, il y en a pour tout le monde. Donc faites passer le mot à vos amis qui jouent. Ils trouveront forcément un petit quelque chose à écouter. Et d'ailleurs, dans les choses à écouter, qu'est-ce qu'on vous prépare, Paul Gara? Qu'est-ce qu'on prépare?
Eh bien, en cette période de fin d'année, on prépare les fêtes de Noël. On va vous préparer, concocter pour le début décembre un épisode spécial Noël avec des recommandations, des coups de cœur de chaque membre de l'équipe pour vous donner des idées de jeux à commander au Père Noël, si vous avez été sage bien sûr, ou encore de jeux auxquels vous pourrez jouer en famille entre la dinde et la bûche, histoire pendant le...
C'est, c'est qui la dinde?
Je te laisse le choix de la personne qui fera la dinde à ta table. Et donc voilà, ce sera l'idée, c'est un peu d'avoir chacun propose un jeu pour lequel qu'il aime ou qu'il trouve adapté à cette période de fête, aussi pour convertir sa famille de non-joueurs s'il a le malheur d'évoluer dans une famille où il y a tout le monde ne partage pas sa passion.
Ouais. Alors on va essayer donc pour cet épisode, on va essayer de vous donner des jeux qui sont dispo quoi. On espère qu'ils le seront encore au moment où le podcast sera diffusé, mais on s'est fixé le challenge de parler de jeux qui sont dispo quoi. C'est quand même plus
bon, il y a quand même beaucoup de choix de jeux hein, donc on a beaucoup de et puis sur Philibert on trouve quand même quasiment tous les jeux à part de très vieux jeux ou ceux qui sont vraiment en rupture, on devrait pouvoir relever le challenge.
Ben, on va commencer tout de suite nos chroniques avec les plateaux numériques. Alors Cyrus nous parle de Jaipur, l'adaptation sur iOS, donc qui a été faite par un développeur qui nous écoute. Donc on le salue et on écoute tout de suite Cyrus.
Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, je suis Cyrus et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode des plateaux numériques. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jaipur. Jaipur est un jeu de Sébastien Bochon pour deux joueurs. Ce jeu est sorti en 2009 chez Gameworks. Dans Jaipur, vous allez être opposé à votre adversaire dans un duel de marchands dans la région du Rajasthan. Une rivière de cartes posée au centre de la table, des cartes en main et c'est parti. Les cartes sont composées de 6 marchandises différentes et de chameaux. Le but du jeu va être de composer des sets de cartes identiques pour les vendre et ramasser de l'argent. Ou plutôt des points de victoire, parce que vous n'achetez pas les marchandises avec votre argent. Ou alors vous les volez. Enfin bref, je sais pas, c'est pas le sujet. Le plus riche, le plus victorieux, gagne à la fin. Ouais. Enfin, du coup, c'est logique. Alors Jaipur, c'est un jeu qui a rencontré un énorme succès à travers le monde. C'est un jeu qui s'est vendu, aujourd'hui on a atteint à peu près les 150 000 exemplaires, donc je me suis renseigné, ce qui est assez énorme, et surtout le jeu est sorti en 2009 et vous pouvez toujours le trouver en boutique. Et c'est un jeu que personnellement je recommande très régulièrement lorsqu'on me demande un jeu à deux, c'est un jeu qui figure sur la liste en tout cas des jeux que je recommande avec Patchwork, un calculateur d'élevage et Seven Wonders Duel. J'ajoute que les illustrations du jeu sont signées par Alexandre Roche. Et d'ailleurs, il y a une petite histoire avec ces illustrations que je m'en vais vous conter rapidement. Il se trouve que l'auteur du jeu, Sébastien Pochon, était en lice pour le Spiel des Jahres de 2007, si je ne dis pas de bêtises, avec Ispahan. Et Ispahan s'est fait battre par The Loreto. Et en guise de vengeance, on va dire, mais c'est un bien grand mot. Une des cartes chameau est différente des autres. Et vous pourrez voir dessus un panda, une peau de panda mort sur le dos du chameau. Voilà, pour la petite histoire. Le jeu a été porté sur iOS et Android en mai 2017 et a été réalisé par Meeple Touch, à qui l'on doit déjà Tong et Mr. Jack Pocket. Et c'est un jeu qui intègre le catalogue d'Asmodee Digital. Alors le jeu est au prix de 5,49€ sur iOS et 4,99€ sur Android. Jaipur est un portage dont j'entends parler depuis au moins 3 ans, je dirais. Il se trouve que le développeur est un de nos auditeurs et que je le croise généralement à Essen et à Cannes. Donc du coup, on discute de l'avancement de Jaipur et il est enfin disponible sur nos tablettes. Alors Eric, tu voulais savoir ce que j'en pensais. Eh bien c'est parti. Parlons donc de la prise en main du jeu. Le jeu est disponible en 7 langues dont le français, ça tombe bien, c'est plutôt celle qui m'intéresse. La première chose qui marque lorsqu'on lance ce tutoriel, même potentiellement avant, sont les illustrations. En effet, ce ne sont pas les illustrations d'Alexandre Roche qu'on retrouve dans l'application. C'est Vincent Dutré qui a repris le travail et a réillustré tout le jeu ainsi que tout le décorum du jeu porté. Alors si son style se prête bien à l'ambiance du jeu, je trouve personnellement qu'il n'est pas très adapté pour une application. Là évidemment je vais essuyer toute la rage des groupies de Vincent Dutré, groupie que je ne suis pas, voilà, je vous l'avouerai. Je suis pas très amateur dans son style. Alors peut-être que ça rentre en ligne de compte également. Toujours est-il que voilà, Vincent Dutray travaille dans un style traditionnel et du coup le trait justement est pas très net et du coup sur une application ça paraît un peu étrange. D'autant que sur les premières versions, la police de caractère était aussi avait aussi des petits soucis. On avait l'impression qu'elle était mangée. Elle était pas très lisible. Ça rendait l'application globalement comme si il y avait un problème de netteté en fait. Donc je reviens sur le tutoriel. Le jeu propose un tutoriel que je trouve tout à fait réussi. Il va vous guider dans une partie, vous expliquer les règles, les différentes actions possibles, comment les réaliser. Voilà, donc vraiment rien à redire là-dessus. On peut également, en cours de partie, trouver les règles du jeu au format PDF et faire appel à une aide de jeu. En ce qui concerne le mode de jeu, vous allez pouvoir jouer en solo avec 4 niveaux de difficulté proposés. La possibilité de choisir le nombre de manches à gagner pour remporter la partie. Donc normalement c'est 2. Là vous allez pouvoir choisir 1 à 3. On peut également jouer à 2 sur une tablette avec un système dans lequel il faut pencher la tablette. Alors je suis pas particulièrement fan de ce système. Si vraiment vous jouez en face à face, ça va fonctionner. Si vous jouez dans un train par exemple, que vous êtes côte à côte, là ça va devenir un petit peu pénible. Il est également possible de jouer en ligne, adossé à un compte Asmodee Digital. Et avec un classement Elo qui va vous permettre du coup de vous comparer aux adversaires à travers le monde. Ce mode de jeu propose un chat qui ne propose toujours pas malheureusement de tri par langue. Voilà, encore une fois, pensez-y les développeurs, je pense que ça coûte pas grand chose à faire. En tout cas, sachez qu'on trouble des joueurs, alors ça dépend un peu des heures de la journée. En tout cas, à la sortie du jeu, moi je trouvais des joueurs. Le choix a été fait de ne pas autoriser le mode de jeu asynchrone, ce qui est plutôt pertinent, je pense, sur ce jeu. Il existe également un mode campagne qui va vous proposer de voyager à travers différentes régions qui vont vous contraindre dans certains modes de jeu. Alors c'est là que le jeu gagne en tout cas beaucoup en solo. Donc vous allez avoir des petites histoires, des missions annexes qui vont venir agrémenter votre voyage. C'est plutôt une bonne idée. Après, ne vous attendez pas non plus à une narration et une aventure extraordinaire. Voilà, moi j'ai pas tout fait, mais bon pour l'instant, voilà, c'est pas révolutionnaire, mais voilà, ça agrémente un peu le jeu et ça vous donne envie de continuer et puis d'essayer les différents modes de jeu qui sont proposés. En fait, vos parties vont vous rapporter des chameaux et de l'argent qui vont être nécessaires à votre voyage. Vous pourrez également construire votre palais. Là, j'avoue que j'ai pas trop compris l'intérêt, hein, surtout que les éléments sont pas faciles à placer. Voilà, mais vous pouvez construire un palais, acheter des éléments et puis construire un joli petit paysage avec un palais. Voilà, bon, il y a sûrement des gens que ça intéresse. Moi, c'est pas trop mon truc. Les régions que vous allez traverser, donc comme je disais, vont vous contraindre à jouer avec des variantes. Pour n'en citer qu'une, il y a la variante qui inverse, par exemple, les valeurs des ressources à la vente, donnant un jeu totalement différent. Là où le jeu de base demande de la rapidité dans la vente des ressources d'un type pour faire le maximum de profit, là cette variante tend à transformer le jeu en un jeu d'attente. Donc c'est plutôt intéressant, même si pour le coup bah, on voit que le jeu normal est quand même plus intéressant que le jeu avec la variante. Mais bon. Comme quoi l'auteur du jeu avait bien fait son travail. Une fois débloquées, ces variantes vont être jouables en mode solo, donc vous allez pouvoir les jouer à volonté. Donc cette campagne c'est vraiment un gros plus, elle renouvelle vraiment le jeu et puis comme je vous disais elle donne envie de continuer et puis d'explorer différentes variantes. En ce qui concerne tout ce qui est autres fonctionnalités, tout ce qui est annexe au jeu, vous allez donc outre les fonctionnalités classiques de réglage de volume, des effets sonores, etc. On va trouver des achievements qui sont pour la plupart adossés à la campagne. La musique quant à elle, si elle colle bien avec l'univers du jeu, comme d'habitude vous la couperez. En ce qui concerne l'ergonomie, elle est réussie. Alors on cafouille parfois sur les échanges de cartes, typiquement, puisque voilà, c'est une des actions possibles dans le jeu. Hein, donc outre vendre des cartes, prendre une carte, c'est d'échanger. Et là, il y a une contrainte ergonomique. Il faut commencer par les cartes qu'on veut prendre. Voilà, et si vous faites dans l'autre sens, bah ça va pas fonctionner. Voilà, le jeu va croire que vous voulez vendre. Donc voilà, il faut bien scaler là-dessus, typiquement. Malgré tout, on a beau le savoir, de temps en temps, ça nous arrive de... Enfin, en tout cas, personnellement, ça m'arrive de faire l'inverse. Et voilà, bon. Donc ça cafouille un petit peu, mais bon, on comprend bien qu'il n'était pas vraiment possible de faire autrement pour que le jeu reste fluide. Et puis, il y a un petit texte en bas de l'écran qui va vous aider à vous recadrer, en fait, hein, qui va vous dire, en gros, là, ce que tu es en train de faire, c'est ça, quoi. Voilà. Donc du coup, vous pouvez vous référer à ce texte pour voir si vous êtes en phase de... Si vous êtes plutôt en train de faire de la vente ou récupérer des cartes ou faire un échange. à tout moment, on a la possibilité de visualiser l'ensemble du jeu, que ce soit les points qui seront encore disponibles, les cartes au milieu de la table, le nombre de cartes que le joueur adversaire en main, voilà, tout est visible, il n'y a pas besoin de manipuler, d'appuyer sur des boutons quoi pour faire apparaître des choses, tout est visible d'un seul coup d'œil. Donc ça, c'est un gros plus. Et puis, on a la possibilité de visualiser le coup précédent qu'a réalisé l'adversaire à tout moment en appuyant sur un bouton. Les parties sont rapides. Attention, malgré tout, il arrive que l'IA soit un peu lente pour réaliser son coup. Bon, c'est pas rédhibitoire, hein, mais de temps en temps, vous voyez que il y a un petit sablier qui tourne. Voilà, ça peut être un petit peu frustrant par moment parce qu'on veut jouer vite et puis il faut attendre que cette IA finisse de calculer. Autrement, le niveau le plus difficile offre un bon challenge. Alors, j'avoue que je suis pas très bon en ce jeu. Je dois bien le reconnaître. Du coup, je me fais régulièrement latter par l'IA. Mais je pense que ce n'est pas dû qu'à manualité dans ce jeu. Je pense que l'IA aussi est plutôt bien faite. En ce qui concerne le futur de l'application, donc j'ai interrogé le développeur Gameworks. Ils ont quelques pistes pour faire évoluer cette application-là, mais rien n'a été décidé. Et en ce qui concerne la récupération des illustrations de Vincent Dutré, pour refaire une version, une réédition de Jaipur, ça aussi c'est à l'étude, mais ça va dépendre en fait de leurs partenaires étrangers essentiellement, savoir s'ils sont partants ou pas pour cette réédition. Vous en savez maintenant autant que moi sur cette application. En conclusion, alors oui, je trouve que le portage est réussi. Je reviendrai régulièrement faire des parties de Jaipur en solo. Je compte bien finir la campagne, qu'on peut réinitialiser d'ailleurs, hein, j'ai oublié de le préciser, mais on peut tout à fait réinitialiser la campagne si on en a envie. En revanche, je préférerais le jeu physique si je dois jouer à deux, à cause de l'ergonomie qui est pas tip-top. Il me reste à vous dire au revoir, à la prochaine. Vous pouvez ressortir votre jeu, jouez bien.
Merci Cyrus pour cet avis sur Jaipur. Alors toi, tu n'y as pas joué
je le connais de nom, mais je n'y ai jamais joué. Mais je pense que je vais le mettre dans ma liste, puisque c'est un jeu, je comprends, à deux. Donc c'est un peu le genre de jeu, quand on est pour jouer à la maison assez facilement. Donc parce que voilà, les jeux à quatre qui sont auxquels on joue à deux, ce sont pas toujours parfaits quand on est dans la version duo. Ouais. Donc moi je suis assez à la recherche de jeux spécifiquement conçus pour jouer à deux joueurs. Comme ça je peux forcer mon mari à jouer avec moi.
c'est vraiment pensé pour deux joueurs, hein, une espèce d'échange au marché. Donc faut bien surveiller ce que l'autre met. Quand il remet ses chameaux ou pas.
Et sinon, toi, tu joues beaucoup sur tablette ou aux jeux de société, enfin aux adaptations de jeux de société ou...
Non, pas tellement, parce que j'aime pas trop racheter des jeux que j'ai déjà. Et puis, donc racheter en numérique. Et puis, je joue pas beaucoup sur tablette. J'ai quelques jeux, mais bout d'une semaine, je m'en lasse. Et même les jeux gratuits. Il y avait Ascension, j'ai joué 15 jours et ensuite ça m'a un peu...
Ça t'a lassé, oui.
Voilà, ça m'a lassé.
Ouais, moi non plus, je joue pas. Et aussi parce que j'ai l'impression de racheter deux fois le même jeu. Et... Donc, puis bon, j'ai pas de tablette à moi aussi, c'est pour ça.
Ah bah voilà, t'es obligé de prendre la tablette de ta fille et tout ça.
De mon mari.
De ton mari en fait.
Ouais, et après du coup, si j'achète tout sur son compte, à un moment, je pense qu'il va me demander... Parce que je me connais, je risque d'en acheter. Si je commence, je vais pas m'arrêter. Et donc, bon, là après, on va avoir un petit conflit conjugal.
Ok, achète le jeu en papier, comme ça tu pourras jouer avec lui aussi.
Voilà, je préfère concentrer mes finances sur les jeux en matériel.
Ok. On va continuer les chroniques avec Je suis jeu, qui se prend pour Jean-Pierre Pernaut.
Oui.
Et qui va nous emmener... faire un reportage dans la campagne profonde. Et on va l'écouter tout de suite.
J'ai l'histoire. Il descend dans une grotte et il va beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'il pouvait imaginer.
Je vais faire les décors en n'ayant pas peur de la couleur. Je vous préviens, apportez vos lunettes de soleil.
Moi, je dessine les animaux.
Je t'envoie des iguanes. C'est extraordinaire.
Ah oui, quel beau monstre. Je me suis fait un petit costume, simple et sympa.
Et pourrais-tu prendre un petit accent du terroir?
Vous êtes prêts?
Oui!
Si le jeu m'était compté.
Madame, messieurs, bonsoir. Il voulait combattre son oisiveté, il est devenu l'agriculteur le plus connu de France. Un agriculteur sauve son exploitation par un simple jeu. J'appelle immédiatement Suis-je sur place.
Eh oui, Jacques-Henri, je me trouve actuellement dans la petite bourgade de Rapido. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter Gérard. Gérard est un agriculteur qui souffre car, comme beaucoup, il n'arrive pas à vendre ses récoltes au bon prix. Alors, pour passer le temps, il a mis en place avec ses amis et agriculteurs voisins quelque chose de très particulier. Je passe donc la parole à Gérard qui en parlera sûrement beaucoup mieux que moi.
Ben oui, ici c'est pas souvent qu'on a l'occasion de s'amuser, de bourlinguer comme on dit ici. Je m'ennuyais tellement, vous savez, je n'arrive pas à vendre mes bêtes, mes récoltes, tout ça, ça pèse.
Oui, et donc, qu'avez-vous inventé pour passer le temps?
Ben, avec Dédé et Bernard, nous avons mis au point une espèce de petit jeu.
Ah oui, et pouvez-vous nous en dire plus?
Oui, alors c'est très simple. Vous voyez, Roberta, mon cochon...
Ah oui, pour vous qui n'avez pas l'image, sachez que Roberta est un cochon, ou plutôt une truie, évidemment.
Oui, alors je me suis dit, ma vieille, tu t'ennuies aussi. Et puis alors j'ai eu cette idée. Vous savez, comme les cochons aiment les pommes.
Oui, et vous n'arriviez pas à les vendre non plus?
Ben non.
Et donc?
Et donc une nuit, j'ai imaginé quelque chose pour passer le temps. Voyez-vous, j'ai créé une espèce de petit chemin circulaire dans mon champ. J'ai alors disposé à deux extrémités deux auges remplies de pommes.
Et combien de pommes dans les auges?
4, exactement.
Et donc?
Eh bien, j'ai dit à Roberta de prendre le chemin et...
Et qu'avez-vous découvert?
Roberta s'arrêtait tout naturellement à chaque auge pour manger des pommes.
Et que vous êtes-vous dit, donc, à ce moment-là?
Moi, pas grand-chose, mais Dédé et Bernard m'ont dit qu'on pouvait se créer un jeu pour passer le temps.
Intéressant. Alors, qu'avez-vous fait?
Nous avons chacun pris un cochon. Moi, Roberta, Dédé, sa Rosita et Bernard, sa Babe.
Et qu'en avez-vous fait? Tout le monde voudrait le savoir.
Eh bien, nous les avons d'abord déposés sur une des deux auges. Peu importe. Nous avons vérifié, évidemment, qu'aucun des cochons ne mange de fruits avant de démarrer.
Mais démarrer quoi?
Oui, alors là, chacun appelait son cochon pour qu'il se rende le plus rapidement d'une auge à l'autre. Et à chaque auge passée, le cochon peut manger une pomme. Le but étant d'être le premier à manger 4 pommes.
Je crois même que vous l'avez perfectionné, non?
Oui, alors on s'est aperçu qu'on avait souvent des égalités. Alors Dédé a eu l'idée de découper le chemin en petites cases, un peu comme un plateau de jeu, qu'il m'a dit. Vous voyez?
Très bien. Et donc?
Bah alors, Dédé nous a montré des petites images de cochons et il a posé un numéro dessus, de 1 à 6, qu'il a dit. Chaque fermier joue à tour de rôle et récupère dans sa main les 6 petites images. Il en choisit une parmi les 6 et la cache aux autres. À ce moment-là, un autre fermier, enfin celui qui joue après lui, doit essayer de deviner l'image qu'il a cachée.
Ah ah! Et que se passe-t-il s'il ne devine pas?
Ben, mettons qu'il choisit le 4. Alors que j'ai caché le 6, ma Roberta avancera donc de 4 cases sur le chemin.
Et s'il devine correctement?
Bien, ma Roberta n'avancera pas. Par contre, celle de Dédé avancera de 6. Et ce sera alors à son tour de jouer et de choisir une image parmi les 6. Et à Bernard de deviner. Et donc, chaque cochon qui passera par une auge aura le droit de manger une pomme. Celui qui arrive à en manger 4 gagne la partie.
Et c'est tout?
Bah oui.
Incroyable! Pour l'avoir vu à l'œuvre, c'est tellement simple, Jacques-Henri, mais c'est tellement efficace. Vous avez du guessing et de la prise de risque. Un enfant de 5 ans pourrait y jouer. Mais dites-moi, si jamais vous arrivez sur la case où un autre cochon est... vu l'étroitesse de votre chemin, arrivez-vous à les mettre ensemble sur la case?
Ah oui, j'allais oublier ce détail. Bernard a dit que si on arrivait dans cette situation, on ne pourrait pas les mettre les cochons ensemble. Il a dit que dans ce cas, on s'arrêterait sur la case d'avant.
Ah, bah oui, c'est normal.
Oui, alors Dédé a rétorqué que c'était pas juste. Alors je leur ai dit pourquoi ne pas enchaîner du nombre deviné une fois l'obstacle dépassé.
Vous voulez donc dire que sur les cases de course excepté les auges, il ne peut y avoir qu'un seul cochon à la fois? Et donc si votre cochon termine un déplacement sur une case de course déjà occupée par un autre cochon, il saute simplement par-dessus en parcourant à nouveau le même nombre de cases?
Oui, c'est ça. Mais à part que bah, le cochon, il n'arrive pas à passer au-dessus de l'autre cochon. Mais en termes de jeu, de ce qu'a dit Dédé, c'est ça.
Ah, de quoi rajouter du piment et de l'incongru dans votre partie. C'est très très malin. Racontez-nous comment votre petit jeu a provoqué l'effervescence auprès de votre ville maintenant.
Eh bien, Dédé l'a dit à sa femme, qui après l'a dit à Yvonne, et puis qui l'a dit, elle, à Robert.
Ah, et qui est Robert?
Bon, c'est un fermier qui habite le village voisin.
Ah, très bien. Et qu'a fait ce Robert?
Bien, il est venu voir avec son cochon Lolo. N'en croyez pas ses yeux, qu'il a dit. Il a voulu jouer aussi.
Et d'autres agriculteurs sont venus squatter à votre jeu?
Oui, si bien qu'on a été bien trop nombreux.
À combien peut-on jouer à ce jeu, selon vous?
Je dirais qu'on ne peut pas dépasser 4 cochons, car sinon c'est vite la débandade.
Très bien. Avez-vous rajouté quelque chose depuis?
Oui, si jamais nous sommes moins de 4, par exemple 2, nous ajoutons 2 petites pancartes cochons que nous couchons sur une des cases du chemin.
Vous voulez dire que vous avez ajouté des obstacles?
Oui, alors si jamais vous tombez dessus, c'est comme si vous tombiez sur la même case qu'un autre cochon.
Donc si vous tombez sur la même case que l'une de ces pancartes, votre cochon saute simplement par-dessus en parcourant à nouveau le même nombre de cases?
Ben oui, c'est ça. Ainsi, on a ce côté, comme vous dites dans le jeu, stratégique tout le temps.
Et faites-vous payer vos courses?
Ben, c'est Dédé qui m'a dit. Faites payer la course. Au moins pour de quoi vivre.
Très bien. Mais dites-moi, le succès a été tel que même un jeu de société a été créé, non?
Eh ben oui. Un homme du nom de Heinz Meister est passé par la FEM une fois. Un Allemand. Vous savez, on n'habite pas très loin de la frontière, alors... Il m'a dit, j'aimerais le faire en jeu de société, qu'il m'a dit. Je lui ai dit, bon, comme vous voulez, moi ça m'est égal.
Et c'est ainsi, Jacques-Henri, qu'est né le jeu cochon Rapido, un jeu de Heinz Meister, illustré par Marek Blaha, édité par Abba, pour 2 à 4 fermiers, que vous trouverez au prix de 11,95€ chez Philibert. C'est vraiment une histoire incroyable, Jacques-Henri. Hein, merci, Gérard, pour ce moment.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà. Je vous rends l'antenne, Jacques-Henri, non sans vous dire au revoir. C'était Suis-jeu. Et n'oubliez pas, jouez bien.
Alors merci Suis-jeu pour cette chronique sur Cochon Rapido. Alors Paul Gara, toi tu as aussi un cochon chez toi ou tu...
Non.
Tu pas Cochon Rapido.
Non, je ne connaissais pas Cochon Rapido. Uniquement parce que Suis-jeu m'en avait parlé, donc mais sinon je ne le connais pas, je n'y ai pas joué et je n'ai pas de cochon chez moi. Ah. Bon, j'ai réfléchi à avoir des poules, mais pour comme ça on pourra jouer à pique plume après, mais.
Ah, mais peut-être tes enfants quand ils mangent, peut-être on peut les assimiler à
non,
cochon.
Pas du tout. Non, je t'interdis de dire ça, mais mes enfants mangent très proprement.
Ok, d'accord. Ben j'attends avec impatience le week-end proxy jeu pour vérifier ça.
Ah oui, tu verras. Ils ont d'autres défauts bien pires.
D'accord.
Non, mais après, voilà, moi je suis assez admirative de l'accent qu'il a réussi à prendre pour tout au long de la chronique parce que c'est pas évident du tout, hein, à faire.
Mais est-ce qu'il parle toujours comme. Mais en fait, il parle peut-être toujours comme ça et toujours avec. Il y a peut-être toujours un accent.
Non,
du terroir, et il fait un accent de gars de la ville quand il fait la présentation.
Ah, ce serait l'astuce, mais je te signale que le mois dernier, il avait l'accent anglais, donc à moins qu'il nous fasse le paysan anglais, peut-être, il peut combiner deux accents, peut-être. Non, mais il est super, enfin, il est très fort, faut reconnaître qu'il est quand même ultra fort en termes d'interprétation. Moi, je suis assez bluffée, hein.
Et voilà, il nous emmène dans son univers, et en même temps, on apprend à jouer au jeu, et... Dans le thème, quoi.
Ouais, c'est une manière très originale. Enfin, moi, je suis admirative de présenter les jeux.
Bah, je pense que ça lui fait du boulot, quoi.
Ouais.
s'il s'amuse.
Oui, je pense qu'il prend du plaisir à le faire parce qu'il faut qu'il cherche l'idée, l'angle d'attaque. Donc, c'est vraiment félicitations. Hein.
Dans les autres nouvelles chroniques, on a Virginie qui se penche aujourd'hui sur les Trick Track d'Or 2017.
Oui.
En cherchant, et elle cherche les femmes. Où sont les femmes, comme on dit.
Oui, on ne le chantera pas, mais...
Voilà, non, je vais éviter de chanter.
Eh bien, les femmes n'ont pas l'air d'être bien loin. Je ne veux pas spoiler, mais...
voilà. Donc, on va l'écouter tout de suite faire sa review sur les Trick Track d'Or et les femmes.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un format un petit peu particulier qui se rapprocherait de Open the Box. Donc l'idée, ce serait de vous emmener avec moi pour parcourir le site des Trick Track d'Or 2017. Donc Trick Track, c'est le site sur les jeux de société communautaires bien connu français, qui propose donc chaque année d'élire nos jeux favoris. Il y existe plusieurs catégories. Donc, on a cette année-ci 8 catégories. Améritrage 2017, auteur, éditeur, enfant, Eurogames, famille, illustrateur et wargame. Donc, j'avais envie de regarder un petit peu avec vous ce qu'on pouvait y trouver. J'ai commencé, enfin là je vais cliquer sur auteur. Alors, auteur, qu'est-ce qu'on apprend ? 15 nominés dans cette catégorie. Du Beau Monde, Bruno Catala, Antoine Boza, Bruno Feduti, et pas une seule femme sur 15. Cette liste a été proposée par apparemment 1341 membres, et ils n'ont pas trouvé une seule autrice. Je me dis que peut-être si on va dans la partie illustrateur, on risque de trouver quelque chose, vu qu'en général, il y a plus de femmes connues comme Marie Cardois dans ce domaine-là. Alors, nominés. Toujours 15 nominés. Et là, on apprend que une femme est nominée. Anne Etsiek. Et les autres, ben voilà, c'est tous des hommes. Et cette liste a été plébiscitée par 868 membres. Bon. Alors, ah, famille. Famille, c'est un bon candidat. Famille, qu'est-ce qu'on y retrouve ? Alors, le jeu Arg, par Romaric Gallonnier, qui est donc illustré par la même Anne Etsiek. Unlock Escape Adventure, où une autrice, Alice Carroll, a participé. Apparemment... Peut-être une autrice, enfin une illustratrice, pardon, pour Au Capitaine de Florent Siriex, donc Raja S. Ah, un autre jeu, donc Majesty, toujours illustré par Anne Etsiek. Et peut-être Century, illustré par Fernanda Suarez. Je pense que c'est à peu près tout, même si je ne connais pas tous les noms. Ben, on n'est toujours pas rendu. Enfant. Enfin, là, on peut avoir des gagnants. Fears, de Bruno Feduti et Anya Ouerd. Oui, je le fais en direct. Hein. Je découvre avec vous. Ouais, non. Apparemment, ben, pas grand-chose. Ouais, ben non. Bon, ben, on peut toujours aller faire un tour du côté Améritrash, Eurogames, Wargames, mais j'ai des gros doutes, mais... Sait-on jamais, je le parcours rapidement. Bon, j'ai pu laisser l'un ou l'autre nom. Passer, ne m'envoyez pas, n'hésitez pas à commenter. Améritrash, ben non. Eurogames. Alors, Eurogames, ben... Lorenzo le Magnifique, par Simone Luciani, Flaminia Brasini et Virginio Gigli. Donc là, on aurait un jeu avec au moins deux autrices. Super. Mais pour le reste... Oui. Alors du coup, comme c'est un peu... je découvre en même temps que vous, il y a des noms que je ne connais pas qu'il faudrait que j'aille vérifier parce que leur consonance ne m'indique pas si cela pourrait être désidentifié femme ou homme. Ah, Pepper Tales, illustré par Christine Alcouf. Allez, quelques noms de femmes quand même. Et franchement, on essaye, mais là, ça me ferait rire. Wargame. Et non. Donc voilà. Bon, c'est un open the box un petit peu marrant. Ah, j'ai oublié les éditeurs. Mais bon, là, à mon avis, on aura plutôt des noms d'éditeurs que. Ouais, c'est ça. Donc voilà. J'espère que c'était pas trop fastidieux, mais donc j'avais envie de pointer un peu ça du doigt, alors que, promis, j'avais pas encore parcouru les catégories à part la catégorie auteur et ce qui m'avait un peu donné envie de vous en parler. Ben voilà, c'est pas super brillant quoi, la représentation féminine là. Bon, évidemment il y a la sélection par les membres etc, mais donc c'est quand même un peu les noms qui sont portés par une grosse communauté active dans le monde du jeu de société, et on y voit que les femmes sont très peu mises en avant. Mais donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ce qui serait vraiment intéressant, je pense, c'est de visibiliser le travail des femmes autrices et même illustratrices dans le monde du jeu. Le jeu vidéo pourrait nous montrer la voie. Par exemple, lors de l'édition 2017 de la Paris Games Week, donc qui est un rassemblement autour du jeu vidéo qui a lieu tous les ans à Paris, il y a eu plusieurs initiatives en ce sens, donc pour les professionnels du jeu vidéo. Donc en fait, on a pu voir des interventions de l'association Women in Games France, qui est une filiale de l'association Women in Games Jobs créée au Royaume-Uni, et donc qui a pour but de sensibiliser les amateurs et les professionnels du jeu vidéo pour la représentation des femmes dans les métiers du secteur. Et donc cette association, elle se base sur la sensibilisation et l'entraide des femmes travaillant dans le secteur. Et donc elle peut organiser des ateliers, des conférences, des rencontres, du networking et des choses comme ça. Et donc c'est un bon moyen de visibiliser la place des femmes dans cette industrie. Donc peut-être que on pourrait s'en inspirer, nous les femmes du jeu de société, pour se visibiliser aussi. Alors pourquoi se visibiliser? L'idée c'est de pouvoir être présente, être connue et reconnue pour pouvoir inspirer les plus jeunes, et que peut-être des petites filles, des jeunes femmes puissent se dire « Tiens, être game designeuse professionnelle, c'est vraiment pour moi et je pourrais y avoir ma place. » Donc c'est en cela que je trouve ça assez important. Et je me demandais par exemple, est-ce que vous connaissiez des autrices de jeux reconnues justement ? Si vous en connaissez, c'est tant mieux. Si vous en connaissez pas, je pourrais par exemple citer Inka Brand, qui est l'une des deux autrices de la série de jeux Exit chez Yellow. Elle crée ses jeux en partenariat avec son mari, donc Marcus Brand. Sinon, peut-être un petit peu plus étonnant, un peu plus grand public aussi, c'est le jeu Jenga, qui est un jeu designé par Leslie Scott, et aussi Quirkle. C'est aussi... Attendez que je retombe sur le nom. Alors, c'est Suzanne McKinley-Ross, voilà. Donc voilà, les femmes créent des jeux assez reconnus au minimum par le grand public. Et donc, je pense qu'on mérite d'avoir un petit peu plus de visibilité. Et je vous retrouve pour les Trick Track 2018, voir si ça a porté ses fruits. Donc peut-être qu'on pourrait d'ici là se rassembler un petit peu. Pourquoi pas faire un petit peu de networking à Cannes. Donc les game designers, si ça vous intéresse, contactez-moi et on verra si on peut se donner rendez-vous là-bas. En attendant, bon jeu et bonne fête de fin d'année. Au revoir.
Merci Virginie pour cette chronique. Donc pas beaucoup de femmes.
Non. En tout cas pas dans les grands noms connus. C'est vrai qu'on ne connaît pas majoritairement. On a en tête des noms d'auteurs masculins et peu féminins.
D'ailleurs, elle nous a fait un petit erratum après sa chronique. Elle a vérifié la biographie de Simone Luciani, qui est en fait un homme. Parce que
oui, ça va être Simone même, Simone Luciani.
Ouais, l'auteur donc de Lorenzo le Magnifique.
Qui est donc un homme.
Qui est donc un homme, oh, le Magnifique.
Oui, bon, après.
Donc voilà, ça fait une femme en moins dans le dans la liste. Dans son classement, quoi, voilà.
Mais bon, c'est ce qu'elle souligne dans cette review. Moi, c'est quelque chose que l'on voit même au niveau des joueurs de jeux de société. J'ai quand même le sentiment que dans les festivals ou même dans les associations, c'est majoritairement un public masculin que l'on rencontre. Il y a beaucoup moins de femmes, en tout cas visibles, enfin en termes de visibilité. Ouais. Je pense qu'il y a et j'ai du mal à le comprendre parce que je vois pas ce qui pourrait expliquer que les femmes aiment moins jouer que les hommes.
Ben moi je pense pas qu'elles aiment moins, mais je pense que c'est la société qui dit que voilà l'homme il peut aller à une soirée jeu, mais la femme il faut qu'elle s'occupe des enfants. Tu vois même inconsciemment on les pousse à ça et je pense que c'est le reflet de la société.
Oui, alors j'ai un ami qui m'avait donné le même argument, en fait, qui disait qu'un homme prendra toujours le temps pour lui de faire ce qui lui plaît, alors qu'une femme, elle fera passer avant, s'occuper des enfants, faire tourner la maison. Et souvent maintenant, comme les femmes travaillent en majorité, ça laisse très peu de temps finalement pour les moments de loisirs. Donc, c'est assez effrayant, je trouve, comme argument. Enfin, si c'est vraiment ça.
Parce que je connais des femmes qui jouent, donc je vois pas pourquoi il y aurait plus d'hommes que de femmes qui joueraient. Mais je pense que c'est surtout ça, quoi.
C'est pour ça que moi, je joue avec mes enfants, comme ça, je les emmène avec moi, et mon mari n'a pas l'impression que je le laisse garder les enfants, mais tu devrais les laisser
les enfants et aller à ta soirée.
C'est pas vraiment vrai parce que ma fille est trop petite, donc de toute façon il la garde. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai assez imposé aussi, hein, mm-hmm. qu'elle n'allait pas de soi, alors que c'est un peu ce qu'on ressent aujourd'hui sur la place de la femme en général, qui est quand même plus cantonnée, qui reste cantonnée alors qu'elle travaille au monde domestique, enfin au monde de la maison. Mm. Mais qui aussi prend ce rôle. Enfin, ça montre bien à quel point on est contrainte, presque conditionnée socialement.
C'est le conditionnement, quoi. Mm. Ouais.
Donc oui, il faut que ça change. En plus, je suis persuadée qu'une femme ne jouera pas au jeu de la même manière qu'un homme. Je suis persuadée qu'on n'aborde pas le fait de jouer de la même manière. Donc ça doit être enrichissant, puisque de toute façon, le monde dans lequel on vit, il est mixte en réalité. Donc on doit l'avoir aussi dans le monde du jeu. Et après, je pense pas qu'il y ait des thématiques plus féminines que masculines. Les tas de femmes, moi, quand j'ai fait même des petites filles, elles aiment se battre, elles aiment combattre des gobelins et elles ont envie de gagner, d'avoir le plus beau royaume. C'est pas juste des thématiques qui font appel à des jeux d'enfants, petits garçons que, les hommes, après, en grandissant, dupliquent dans leur jeu, dans les jeux de société. Mmh. Pour adultes.
Ouais. De toute façon, il y a plein d'hommes qui aiment aussi Patchwork et
exactement.
Et Cottage Garden. Voilà.
Tout à fait. Donc on y arrivera. Hein. J'ai toujours l'espoir qu'on arrive à avoir les mêmes salaires que vous. Je crois pas, mais ça va prendre beaucoup de temps. Mais je suis persuadée qu'on pourra un jour imposer vraiment plus de mixité et aussi un point de vue féminin dans la société.
On l'espère tous. Mm. On va continuer avec une autre femme qui va nous faire une chronique. Alors elle nous a avoué lors de l'épisode 90 qu'elle était fan de la Reine des Neiges.
Ah.
Alors c'est Dani qui va nous faire un petit tour à la gendarmerie nationale.
C'est moi, Reine des Neiges, comme ambiance tout de
suite.
Voilà,
c'est moi.
Dans les gendarmeries aussi, hein, ils chantent « Libérer, délivrer ». Libérer,
délivrer. On va l'écouter tout de suite.
Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu nommé Brigade de Recherche, édité par Grimaud en 1980. Alors certaines boîtes existent sous le nom Miro Mécano, qui, si j'ai bien tout compris, a racheté une partie de Grimaud à cette époque. C'est un jeu de collecte et de parcours qui se déroule dans l'univers de la gendarmerie. La boîte est juste géniale. Elle représente une mosaïque d'images de gendarmerie des années 80, donc il y a un hélicoptère, une moto, des voitures, une 4L et probablement une déesse, même je suis pas super calée en voiture, mais je pense que c'est une déesse. Faut pas oublier non plus le gendarme en tenue limite d'apparat avec képi qui patauge dans un champ pour récupérer des indices. Et évidemment, le bâtiment gendarmerie nationale dans un coin. On s'attend presque à, quand on ouvre la boîte, entendre vos papiers. Je mettrai évidemment la photo de la boîte sur le billet de l'épisode, ça serait quand même dommage de la manquer. Chaque joueur va incarner un chef de brigade et un gendarme et aura à sa disposition un carnet de déclaration et 12 cartes indices de la même couleur. Il choisira secrètement dans le carnet de déclaration une des 8 affaires à résoudre. Il mémorise les 6 cartes indices mentionnées pour l'affaire, choisie, et conserve face cachée les 6 autres. Les pions sont posés sur le plateau de jeu et le joueur reçoit 5 cartes déplacement qui lui permettront de parcourir le plateau. Les gendarmes se déplacent à pied, avancent d'une case, en moto, avancent de 2 cases, en auto, c'est bien écrit « auto » dans la règle, soit avancer de 3 cases, ou en hélicoptère, ce qui permet de se déplacer où l'on veut. Chaque joueur devra collecter les 6 indices de son affaire, les ramener et les vérifier à la gendarmerie. Il y a quelques subtilités dans les déplacements des pions, qui ne peuvent utiliser qu'un seul véhicule par tour, ou ne peuvent s'arrêter sur une case déjà occupée quand ils sont à la recherche d'un indice. Seul le chef de brigade peut collecter des indices, qu'il ramènera au gendarme, qui lui ramènera les indices à la gendarmerie. Et les indices en cours de livraison peuvent se piquer d'un gendarme à l'autre. C'est pas très esprit de corps, vous en conviendrez. Une fois le jeton ramené, le joueur expose la carte correspondante et repose l'indice sur le plateau. Quand les 6 cartes de l'affaire choisie sont retournées, le joueur ramène ses 2 pions à la gendarmerie et gagne. Un joueur peut, en cours de partie, choisir d'abandonner son enquête au profit d'une autre enquête, notamment s'il se rend compte qu'un joueur a choisi la même que lui et est en avance sur lui. Il est précisé dans la règle qu'une des variantes peut être de décider avant de commencer à jouer de la durée d'une partie. Dans ce cas, au top final, celui qui possède le plus d'indices valables est gagnant. Ça veut tout dire quant à la durée du jeu. Il faut dire qu'il y peut y avoir embouteillage sur le plateau et dans la collecte des indices, ce qui risque d'augmenter la durée de la partie et de la rendre un peu trop longue. Quand on voit la boîte et le système d'indices, on peut vite croire à un jeu d'enquête et de déduction. Mais comme je le disais, on est plus sur un jeu de collecte et de parcours. Je pense qu'on a fait mieux dans le style et l'intérêt est assez limité, sauf peut-être si vous avez un grand fan de gendarmerie à la maison. Par contre, la boîte est vraiment géniale et vaut largement son pesant de cacahuètes. Comme d'habitude, c'est un jeu que vous ne trouverez pas chez Philibert, mais plutôt au fil de pérégrination du dimanche matin en vide-grenier. Sur ce, je vous dis, jouez bien!
Merci Dani pour cette chronique. Donc oui, un jeu sur le thème de la gendarmerie nationale. Ça fait rêver ça, non, Polga?
Oui, enfin, c'était pas forcément mon thème de prédilection.
Tu parlais de thèmes qui sont plus masculins ou pas.
Oui, alors il y a des tas de thèmes masculins que j'aime beaucoup, mais celui de la police et de la gendarmerie nationale me vient pas à l'esprit tout de suite. Après, je connais des gendarmes hyper sympas, hein, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas d'ennui avec les forces de l'ordre. Je comprends que le matériel du jeu a l'air vraiment très cool, donc c'est vrai que ça peut être chouette. Je me suis demandé, j'espère qu'au moins dans toutes les gendarmeries de France, ils l'ont ce jeu quand même, ils ont un exemplaire.
Ah bah oui, mais ils sont obligés de jouer aussi.
Oui, c'est ça, pendant les permanences.
Une fois par semaine, tu vois. pour faire toujours dans le sérieux avec la gendarmerie nationale, c'est le pionfesseur. Il nous analyse aujourd'hui les jeux à combo avec le jeu Evolution. Alors on va l'écouter tout de suite.
Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur et aujourd'hui on va se pencher sur un jeu qui est sorti l'année dernière en version française. On va parler de Evolution. Alors on va pas trop entrer en détail dans les règles. C'est un jeu tout de même assez compliqué et je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui ont déjà expliqué les règles sur internet. Et en plus, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un aspect bien particulier du jeu. Evolution est un jeu avec des cartes, beaucoup de cartes. Et durant la partie, vous allez créer des espèces animales. Et vous allez utiliser vos cartes comme des capacités spéciales que vous allez attribuer à certaines de vos espèces. Et bien c'est ce principe qu'on retiendra aujourd'hui. Pour se développer dans le jeu, on aura besoin des cartes ayant toutes des capacités spéciales. Et il faudra essayer de jouer au mieux de son tirage pour trouver quelles sont les meilleures combinaisons entre les cartes. Ou comme on dit dans le jargon, les meilleurs combos. Ainsi, Evolution suit la lignée d'une famille de jeux qui n'a pas tant de représentants que ça. Si bien qu'il n'y a pas vraiment de consensus pour les désigner. Mais que j'appellerais des jeux à combos, car c'est un terme que j'ai pu apercevoir à plusieurs reprises. Pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit, commençons par citer quelques exemples. Évidemment, le plus emblématique sorti en 2007 est Race for the Galaxy, qui a popularisé le genre, mais on peut dire que le premier jeu à avoir ce genre de mécanique serait San Juan, dont Race for the Galaxy est très fortement inspiré. Entre les deux est également sorti La Gloire de Rome, qui entre aussi dans cette catégorie. Voilà, l'idée de base, c'est d'avoir un gros panel de cartes, quasiment toutes différentes, avec plein d'effets et autres capacités spéciales, et les joueurs vont se retrouver au cours de la partie avec certaines de ces cartes. Et le terme « jeu à combo » n'est pas anodin, puisque d'une partie à l'autre, on ne recevra pas les mêmes cartes. Tout l'enjeu d'une partie étant d'essayer de trouver les meilleures combinaisons, les meilleures synergies entre les cartes qui vont arriver dans notre champ des possibles. C'est pour cela qu'un jeu comme Puerto Rico ne rentre pas dans cette catégorie, car certes il y a des bâtiments avec des capacités spéciales, mais ils sont tous disponibles en début de partie. Il n'y a donc pas de vrai combo à chercher. D'ailleurs ça se voit même d'un point de vue matériel, puisque ces bâtiments sont représentés par des tuiles, là où un jeu à combo utilisera quasiment toujours des cartes, puisqu'il y a cette idée importante de tirage aléatoire, pour que le joueur se retrouve d'une partie à l'autre avec une configuration différente au sein de laquelle il doit s'adapter. Après le succès de Race for the Galaxy, on a vu émerger quelques autres titres comme Innovation, 51ème État ou encore plus tard Seasons. Le genre a été aussi mixé avec des jeux plus complexes que l'on pourrait aussi qualifier de jeux de gestion. Le premier ayant eu cette idée étant Agricola, où vous commencez avec un tirage de cartes aléatoire. Bien qu'ici le côté gestion a plus tendance à primer, je trouve, il aura le mérite d'être le premier à introduire cette idée de mélange entre jeu de gestion et jeu à combo, ce qui explique le fait qu'il soit considéré pour beaucoup comme un jeu majeur de la dernière décennie. Plus tard, on verra naître des jeux comme Elysium ou en beaucoup plus complexe Terraforming Mars qui joueront eux beaucoup plus sur l'aspect combo de cartes. On ne va pas tous les citer, mais il faut reconnaître, comme je vous le disais au début de cette chronique, qu'il n'y en a pas tant que ça. Pourtant, je pense que c'est une catégorie de jeux vraiment intéressante et je ne suis visiblement pas le seul au vu du succès critique de pas mal de ces jeux. Leur principal point fort étant évidemment la rejouabilité, puisqu'on a des cartes toutes différentes, les combinaisons possibles sont énormes et chaque partie est en quelque sorte une nouvelle découverte. C'est même d'ailleurs autour de cet aspect de découverte que ces jeux sont pensés, puisque la mécanique veut qu'en tant que joueur, votre objectif est de trouver des combos efficaces parmi un panel de cartes. On pourra noter qu'on est dans une sensation assez similaire au jeu de deck building, même si je pense qu'on peut les différencier, car dans le deck building, on a en général tous les choix exposés en début de partie. Et puis il y a le côté construction d'un deck, avec tout ce que ça entraîne d'aléatoire et d'équilibrage du deck qui apporte une sensation différente de jeu. En revanche, le jeu Ascension est un exemple de mélange entre une mécanique de deck building et une mécanique de jeu à combo, puisque les cartes que l'on incorpore à notre deck sont choisies parmi une file de cartes toutes différentes, et ainsi aucun joueur n'aura les mêmes choix d'un tour à l'autre. Dans les jeux de cartes à collectionner aussi, on peut retrouver un peu la sensation du jeu à combo, lorsque l'on fait des tournois en scellé ou en draft, c'est-à-dire pas avec des decks construits à l'avance, juste chaque joueur ouvre des boosters et on doit construire son deck avec ses boosters. Mais bref, maintenant que l'on voit à peu près ce qu'est un jeu à combo, revenons à Evolution. À vrai dire, il y a un petit point tout simple qui fait l'originalité d'Evolution, la petite idée maligne qui le différencie des autres jeux à combo. En général, dans un jeu à combo, on ne retrouve jamais plus de 2 ou 3 exemplaires d'une carte. Le but étant d'avoir un panel de pouvoirs tous différents, mais dans Evolution, il n'y a qu'une 20aine de cartes différentes, la plupart présentant 7 exemplaires dans le paquet. Ainsi, on peut considérer que le jeu reste tout de même un jeu à combo, car avec 20 pouvoirs différents, plus le fait que chaque espèce peut avoir jusque 3 pouvoirs, ça fait tout de même pas mal de possibilités, et donc de combos à trouver. Mais en réduisant le nombre de pouvoirs différents, cela permet de créer un metagame plus fort et plus interactif. Si on a besoin d'un pouvoir en particulier pour rencontrer un autre, on peut plus facilement le trouver. Et c'est pour ça que le jeu va beaucoup jouer avec cette interaction entre les joueurs. Les animaux carnivores vont pouvoir manger les autres, mais ces derniers peuvent apprendre à éviter de se faire manger de pas mal de façons différentes. Ceux qui sont herbivores vont pouvoir récupérer plus de plantes que les autres, car la nourriture des herbivores est commune, etc., etc. Et c'est donc un thème parfaitement choisi, puisqu'avec toutes ces espèces qui interagissent entre elles, et dont les caractéristiques sont changeantes, les joueurs sont réellement en train de créer un petit écosystème qui évolue au cours du temps. Voilà, avant de conclure cette chronique, j'aimerais vous raconter un petit fait amusant en rapport avec toutes ces histoires de durée de vie et de cartes. Savez-vous combien de combinaisons possibles il existe si vous mélangez correctement un paquet de 52 cartes ? Beaucoup. Genre vraiment beaucoup. Genre un nombre tellement énorme que vous pouvez à peine le concevoir. Pour vous donner à peu près une échelle de ce nombre, imaginez ceci. Vous démarrez un chronomètre et vous vous placez quelque part sur l'équateur. Là, vous faites un pas à chaque milliard d'années. Lorsque vous aurez fait ainsi le tour de la Terre, retirez une goutte de l'océan Pacifique et vous continuez ainsi à la vitesse d'un pas tous les milliards d'années. Et à chaque fois, vous retirez une goutte de l'océan Pacifique. Lorsque l'océan est totalement vidé, continuez toujours au même rythme, mais cette fois, quand vous avez fini un tour de la Terre, vous placez une feuille au fond de l'océan. Vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez réalisé une pile de papier qui aille jusqu'au soleil. Si vous regardez alors votre chronomètre pour voir le nombre de secondes qui s'est écoulé durant ce processus très long, eh bien dites-vous que ce nombre est encore 4000 fois plus petit que le nombre de possibilités dans un paquet de 52 cartes. Je vous laisse donc imaginer le nombre de possibilités dans un jeu à combo comme Race for the Galaxy qui tourne en général autour de plus de 100 cartes. Voilà, c'était le Pionfesseur, je vous remercie de m'avoir écouté et en attendant, jouez bien.
Merci le Pionfesseur pour cette chronique. Donc il veut nous faire vider l'océan, ça va prendre un peu de temps.
C'est pas très écolo ça, comme démarche.
Ah mais c'est pour montrer le temps qui est, le nombre de possibilités de mélanger un jeu de cartes.
Ah oui, après sur les jeux à combo, c'est des, moi je trouve que c'est des jeux qui sont peut-être dans les jeux les moins accessibles quand on n'est pas un joueur un peu aguerri, parce que ça nécessite quand même un certain apprentissage avant de maîtriser ce genre de jeu. Après je pense que quand on a l'habitude de jouer à des jeux à combo, on peut jouer un peu plus facilement à n'importe quel autre jeu à combo. Mais quand on connaît pas du tout, c'était pas du tout, enfin, c'était vraiment pas évident. C'est une autre démarche intellectuelle que d'autres jeux qui vont être très accessibles où on peut démarrer et gagner assez facilement, même si on ne connaît pas du tout le jeu.
Oui, c'est vrai que les jeux à combo, faut la première partie, ça paraît difficile de gagner. Il faut, moi, je pense. Deux parties pour déjà voir les différents pouvoirs des cartes et pouvoir se dire après tiens si je mets ça avec ça ça va bien aller ensemble
Oui et puis s'en souvenir pour les parties suivantes parce que je pense que voilà. Quand on joue souvent au même jeu à combo on finit par acquérir une connaissance a priori des cartes et donc même si la main est aléatoire on saura comment orienter son jeu en fonction des cartes en main. Moi, je le vois, bon, avec un jeu qui est quand même un jeu à combo, qui est Dominion, bah, à force d'y jouer, on se souvient des effets intéressants de plusieurs cartes entre elles. Et on aura tendance à orienter notre jeu sur cet angle-là. Pour avoir joué à quelques jeux à combo avec mon fils, qui a 8 ans, je vois bien que c'est vraiment un jeu qui est difficile d'accès pour les enfants. Alors, il a quand même l'habitude de jouer, il y a pas mal de jeux où il se débrouille très bien. Mais les jeux à combo, c'est vraiment un niveau de difficulté d'accès, parce que lui, il a tendance à jouer avec souvent des stratégies un peu préétablies en tête. Et dans le jeu à combo, tu ne peux pas complètement faire ça. Il faut que tu t'adaptes en permanence. Et c'est là que tu vois la limite entre un enfant et un adulte. Parce que lui, il aura toujours tendance à vouloir jouer les mêmes cartes de la même manière, sans forcément considérer qu'on peut avoir différentes stratégies possibles selon ce que l'on sort comme carte.
Ouais, selon le moment de la partie et les cartes,
faut avoir beaucoup de ressources en fait pour jouer, parce que beaucoup de ressources intellectuelles, faut être capable de changer, s'adapter,
et de visualiser les différents combos quoi, de voir qu'est-ce que ça pourrait donner une carte avec une autre quoi.
Oui, beaucoup d'anticipation, ce qui est pas évident quand t'es petit, enfin quand t'es enfant en tout cas.
Et d'ailleurs, les jeux pour les enfants. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné ce mois-ci ?
Eh bien, je suis toujours un peu en retard, moi. Donc, moi, je vais vous parler de jeux avec des thématiques Halloween. Donc, je sais que c'était il y a presque un mois. Excusez-moi, mais bon, je suis encore dedans.
T'es en avance, là, de 11 mois, tu vois.
Oui, voilà, c'est ça. C'est pour préparer Halloween 2018. Et donc, les monstres sont de sortie hein, depuis le 31 octobre. On les a pas rongés à la maison. Et du coup, je vous présente deux jeux qui utilisent l'univers des monstres, des créatures effrayantes, parce que ça plaît énormément aux enfants. Voilà, les enfants, mais les adultes aussi, aiment bien avoir peur, aiment bien les créatures maléfiques, les monstres horribles. Et donc, je vous parle de deux jeux adaptés vraiment petits. C'est La Chasse aux Monstres, qui est un grand classique, et pour enfants un peu plus grands, La Légende du Wendigo, qui sont deux jeux qui fonctionnent qui sont des dérivés du Memory, en 100 fois mieux. Et j'en profite pour m'excuser auprès de l'illustrateur polonais de la chasse aux monstres dont j'ai bousillé le nom dans la chronique, qui m'excusera puisque j'ai la bonne prononciation. Il s'est donc Maciej Czemanowicz.
Ah ben voilà, comme ça.
Voilà, s'il nous écoute, il me pardonnera.
on l'a dit bien au moins une fois, quoi.
Voilà, on aura oublié bientôt, mais.
D'ailleurs, on va écouter ta chronique tout de suite.
Maman, je m'ennuie.
Tu veux qu'on fasse un jeu ?
Oui, tout sauf le Monopoly.
Tu connais Marrakech ? C'est comme le Monopoly, mais en 100 fois mieux.
Bonjour les papas joueurs et bonjour les mamans joueuses. Aujourd'hui, dans cette chronique destinée aux joueurs nés, nous allons foutre la trouille à vos enfants. Et oui, rien de mieux en cette période post-Halloween que le plaisir sadique et un peu coupable que l'on a en tant que parents à faire peur à nos enfants. Contes effrayants dans lesquels des petites filles se font dévorer par des loups ou des enfants abandonnés dans la forêt, dessins animés traumatisants peuplés de sorcières maléfiques, jeux vidéo remplis de boss monstrueux. Les enfants aiment les monstres, les méchants, et le jeu de société n'est pas en reste. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux jeux édités par Le Scorpion Masqué, qui a bien compris cette fascination dès le plus jeune âge pour les monstres repoussants et autres créatures abominables. Puisque d'ailleurs, cet éditeur a initié la gamme Petits Monstres, dédiée aux jeux de société pour enfants. Alors, je vous rassure, je ne commettrai pas le crime de lèse-président de chroniquer Maudite Momie. J'ai trop peur d'avoir des problèmes, moi. Tout d'abord, parlons ici d'un jeu vraiment quasi parfait pour les petits. La chasse aux monstres. La chasse aux monstres est un jeu coopératif pour 1 à 6 joueurs, dont Antoine Boza, édité donc par Le Scorpion Masqué. Ce jeu est conseillé pour des enfants de 3 à 8 ans, mais en réalité il est accessible dès 2 ans et demi, avec un peu de patience sur les premières parties. Et il plaît largement au-delà de 8 ans. Vous le trouverez sur le site de Philibert au prix de 16€. Le matériel est composé de 20 cartes monstres recto, lit d'enfant verso, 10 tuiles jouets, ballons, peluches, poupées, Lego, avions, tambours, etc., etc. Une tuile chaussette, une tuile monstre tapis, 3 tuiles corps de monstre, tête, poitrail et pattes, un placard en carton qui est intégré dans le fond de la boîte de jeu, et bien évidemment la règle du jeu. La chasse aux monstres est un jeu de mémoire, mais bien plus funky que le très classique Memory, hein, surtout quand vous avez, comme moi, eu la version Richesse de la Bavière qui avait été offerte par le comité de jumelage franco-allemand de ma ville. Alors, les cartes sont posées face lit d'enfant, au centre de la table de jeu. On en retourne une, et apparaît alors l'un des abominables monstres qui viennent hanter les rêves des enfants pour les transformer en cauchemars. Mais chaque monstre a un point faible. Il est lui-même effrayé par l'un des jouets présents dans la chambre de l'enfant. Et à vous de le retrouver. Chaque joueur à son tour retourne l'une des 12 tuiles objets posées face cachée pour retrouver l'objet qui fait fuir le monstre. Sur la carte monstre, il y a donc le monstre et un petit sigle présentant l'objet. Ça peut être le Lego, la poupée, le nounours. Et donc, il faut retrouver l'objet correspondant pour se débarrasser du monstre. Si on se trompe, eh bien, on va retourner l'une des 3 tuiles qui représentent le corps du monstre. Et lorsque le corps du monstre est complété totalement, on révèle alors un nouveau monstre du paquet. Si 4 monstres entourent le lit, eh bien, la révélation d'un 5e monstre fait alors perdre la partie. Parmi les 12 tuiles objets se trouve également une chaussette, et là on doit remélanger les tuiles objets, donc ce qui complique un petit peu la mémorisation, et aussi une tuile monstre tapis, et dans ce cas on tire automatiquement une nouvelle carte monstre sans attendre d'avoir reconstitué les 3 parties du petit monstre. Si l'on trouve le jouet qui fait fuir l'un des monstres entourant le lit, alors le monstre est renvoyé au placard, accompagné de la petite phrase rituelle « Au placard les monstres !» Le matériel de ce jeu est vraiment très réussi. Les illustrations de... Alors, je m'excuse déjà pour la prononciation. Donc, les illustrations de Maciej Czemanowicz, bon, le polonais n'était pas ma première langue au collège, sont donc réellement réussies. Elles sont pas du tout vieillottes et au contraire très très modernes. Elles lorgnent un petit peu du côté de Monstres et Compagnie et elles laissent place à l'imaginaire et amusent beaucoup les enfants. Le placard qui est intégré dans la boîte et dans lequel on va faire glisser les cartes lorsque l'on peut dire au placard les monstres, c'est une excellente idée. Les enfants adorent Le fait de prononcer cette petite phrase rituelle au placard les monstres en même temps, ça c'est un carton assuré auprès des petits comme des grands. Le mécanisme du jeu est quant à lui également apprécié. C'est très 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 simple et en même temps ça change, comme je vous le disais, des classiques jeux de mémoire. Alors avec les tout petits, il faut s'armer de patience parce que souvent ils ont tendance à retourner naturellement toujours la même tuile. Et ça, en tant qu'adulte, ça va vite vous rendre dingue. En revanche, ils savent souvent retrouver le bon jouet si la tuile a été précédemment retournée. Et parfois, bien mieux que les adultes. C'est peut-être même l'une des rares mécaniques de jeu où on peut dire que les enfants peuvent se révéler meilleurs que les adultes. Nos neurones à nous, elles ont été bien usées par des soirées arrosées, voire enfumées, des nuits passées sans dormir, et puis une moins grande stimulation de notre hippocampe. Oui, c'est le truc dans le cerveau, pas le joli petit animal marin, qui est tout simplement lié à l'âge qui passe. C'est donc un jeu pour enfants, qui présente vraiment un challenge même pour les adultes, et ce qui est tout à fait notable, et rend les parties intéressantes pour toute la famille. Alors, vous comprenez bien qu'à la maison, on recommande la chasse aux monstres, hein. Tant la maman joueuse que les enfants joueurs. C'est vraiment un jeu indispensable et à tester dès le plus jeune âge. Le second jeu du Scorpion Masqué dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est La Légende du Wendigo, qui est donc un jeu de Christian Lemay lui-même, illustré par Nikao, qui est pour 2 à 6 joueurs à partir de 6 ans. Il est quant à lui disponible chez Philibert au prix de 17,95€. Il s'agit également d'un jeu reposant sur une mécanique de mémoire, mais asymétrique, puisqu'en fait l'un des joueurs va incarner le Wendigo, qui est une créature maléfique et anthropophage issue du folklore d'Amérique du Nord, tandis que les autres joueurs, eux, vont incarner de gentils petits scouts passant la nuit à la belle étoile autour d'un feu de camp. La boîte de la légende du Wendigo se compose de 32 tuiles scouts. Au recto, on a un scout unique. Au verso, on a un groupe de scouts. On a 32 tuiles scouts avec au recto un scout unique toujours, les 32 mêmes forcément que le paquet précédent. Mais au verso, le Wendigo, un sablier et là encore une règle du jeu. On va disposer sur la table les 32 tuiles scouts, la face scout unique visible. Chaque scout en fait se différencie selon des petits détails, son chapeau, sa cravate, son visage, sa corpulence, garçon-fille. Et le joueur qui incarne le Wendigo va piocher en fait dans le paquet des 32 tuiles Wendigo une tuile sans la montrer aux autres joueurs et il va donc remiser par-devers lui les 31 tuiles restantes, toujours dans le plus grand secret. Les joueurs qui incarnent les scouts ont alors le talent du sablier pour bien observer la disposition des 32 tuiles scouts. Puis ils se retournent et ferment les yeux, tandis que le Wendigo, lui, va échanger la tuile qu'il a piochée contre celle présentant le même scout disposé sur la table. La partie qui se déroule donc en 5 manches maximum va pouvoir commencer. À chaque tour, le joueur incarnant le Wendigo va retirer une tuile scout du plateau pour la remplacer par le scout Wendigo qu'il a choisi pendant que les autres joueurs sont tournés et ferment les yeux. Lorsque ceux-ci vont se retourner, il y aura donc une place vide et le scout Wendigo aura changé de place. Aux joueurs incarnant les scouts d'essayer de trouver où celui-ci se cache pendant que le sablier défile. S'ils n'y parviennent pas, on démarre la deuxième manche et le Wendigo doit alors kidnapper un deuxième scout. Et il y aura donc une deuxième place vide. Et on continue ainsi jusqu'à ce que les joueurs scouts débusquent le Wendigo pour remporter la partie ou jusqu'à ce que le Wendigo ait réussi à kidnapper 5 scouts. Et c'est alors lui qui remporte la partie. Le matériel du jeu est très simple là encore. On a 64 tuiles, un sablier. Mais là encore, très réussi et très bien illustré. Le Wendigo est tout ce qu'il faut d'effrayant pour de jeunes enfants. Alors rappelons que le Wendigo a inspiré le personnage d'Itaka dans la mythologie lovecraftienne. Tandis que les petits scouts, eux, qui semblent tout droit sortis d'un dessin animé, par exemple là-haut, sont plutôt drôles et chacun se ressemblant tout en conservant ce petit détail qui permet de l'identifier par rapport à ses petits camarades. La Légende du Wendigo est un jeu très drôle, qui plaît tant aux enfants qu'aux parents. Là encore, on va dépoussiérer un peu le Monopoly pour une adaptation beaucoup plus fun et dynamique, avec la gestion de la pression que met le sablier lorsque l'on cherche désespérément à identifier le scout cachant le Wendigo. Il implique également un apprentissage de la stratégie pour se partager entre les joueurs les zones à observer et à mémoriser. Et là, on va vérifier que le dicton qui dit que plus on est de fous, plus on rit, car âge 2, le jeu est vraiment difficile pour celui qui doit démasquer le Wendigo. Le jeu est indiqué pour 6 joueurs maximum, mais on doit pouvoir aller au-delà si on y joue avec des enfants pas trop survoltés. De plus, il permet une certaine progression, car si pour les premières parties, il est préférable qu'un adulte joue le rôle du Wendigo, les enfants pourront endosser ce rôle dès qu'ils maîtriseront le mécanisme du jeu. Là encore, on a du matériel et des règles simples, très compréhensibles, qui permettent aux enfants de jouer entre eux. Le seul hic, mais il ne vient pas du jeu, mais plutôt de la nature humaine, c'est que les enfants peuvent avoir tendance à tricher. Et oui, ils ne ferment pas les yeux ou ne se retournent pas vraiment. Donc là encore, un peu de pédagogie pour leur expliquer que jouer n'a aucun intérêt si on triche. Encore relancer un dé une fois de temps en temps, bon, ça n'influe pas forcément sur le cours d'un jeu, hein. Bon, je sais, je suis quelqu'un de laxiste. Mais là, pour ce jeu-là, ça n'a aucun sens de tricher, parce que si vous regardez quelle est la tuile du Wendigo avant même de jouer, il n'y a vraiment plus aucun intérêt à jouer du tout. Donc là encore, je recommande ce jeu, qui fonctionne sans le principe du memory, mais en beaucoup plus rigolo pour toute la famille. Voilà, ma chronique est terminée. Je sais que je suis un peu en retard pour Halloween, mais c'est pas grave. On reste quand même dans un thème de saison. Et le mois prochain, en revanche, je vous parlerai de jeux ultra classiques revisités. Mais d'ici là, jouez bien et surtout avec vos enfants.
Bah merci pour cette présentation de jeux de mémoire. Tu joues beaucoup à des jeux de mémoire, toi, ou comme moi, c'est un peu le point faible quand on vieillit.
Non, j'ai une très bonne mémoire encore à mon âge, pourtant bien avancée. Après, les jeux de mémoire, les jeux pour enfants, sont souvent. Il y a beaucoup de dérivés de memory dans les jeux pour enfants. Donc, par la force des choses, tu es un peu obligé de t'y mettre. Et c'est vrai que c'est ce que je notais, c'est des jeux où les enfants peuvent vraiment être meilleurs que toi. Même quand t'as une bonne mémoire, parce que pour le coup, eux ont une mémoire toute fraîche. Et souvent, nous, on a beaucoup de sollicitations autres, même quand on joue entre le téléphone portable, Les enfants, quand ils jouent, ils peuvent se concentrer. C'est des jeux de durée assez courte, donc ils sont très concentrés sur ce qu'ils font, plus que nous. Mais c'est vrai qu'après, dans les jeux pour adultes, les jeux de mémoire disparaissent un petit peu de nos horizons.
Ouais, c'est vrai. C'est la mémoire à plus long terme pour se souvenir des combos.
Voilà.
On nous l'a dit. Depuis, on fait ça. Et la mémoire, on va l'utiliser aussi dans l'histoire du jeu, avec Acariâtre, qui nous emmène sur les traces d'un autre explorateur ludique, Johan Huizinga.
Oui, avec une question importante, à savoir, les joueurs oublient-ils d'être sérieux ?
Oui, ben on va l'écouter tout de suite.
Ludo Incognito, à la découverte de la faune ludique.
Ce soir, sur D6, retrouvez notre dossier « Les joueurs oublient-ils d'être sérieux ?» Une plongée inédite dans le monde envoûtant de Ludo Incognito. On retrouve immédiatement sur place notre envoyé très spécial. Bonsoir. Les joueuses, les joueurs, qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? C'est l'objet de notre enquête. Pour tenter d'y voir plus clair et en exclusivité pour vous ce soir, nous sommes parvenus à convaincre une adepte de cette pratique singulière de bien vouloir répondre à nos questions. Joueuse, bonsoir.
Bonsoir.
Que faites-vous dans la vie ?
Je joue, bien sûr.
Oui, très bien. Et quel est votre métier ?
Je suis négociante en vin. La semaine dernière, je chassais les dragons. Et demain, pourquoi pas virologue ?
Ah, oui.
Mais détends-toi, mon bonhomme, tu es tout crispé.
Merci. Après ces fracassantes révélations, le mystère s'épaissit. Johan Huizinga est un historien néerlandais spécialiste de l'histoire des cultures. En 1938, il publie « Homo Ludens », essai sur la fonction sociale du jeu. Dans ce livre, il note que le jeu, dans son appréciation la plus courante, est tout ce qui révèle du non-sérieux. Les animaux jouent, les enfants jouent, parfois les adultes jouent. Le jeu est intimement lié à la notion de fête, de mascarade. On joue un rôle, on badine, on s'amuse. Toujours au cœur de l'info, nous suivons notre joueuse dans ses occupations du jour. Elle se dirige actuellement vers le centre du village. Là, sur le sol, je distingue un cercle sommairement dessiné à la craie. D'un pas déterminé, notre joueuse se retrousse les manches et franchit la ligne, rejoignant ainsi ses congénères déjà sur place. Je m'attends au pire. Dans son livre Homo Ludens, Huizinga détaille les composantes du jeu. D'après lui, un jeu est une activité pratiquée librement par un groupe de participants. Cette activité se place en dehors de la vie courante
et ne poursuit pas de but matériel. C'est important. Le jeu, enfin, est régi par des règles et se déroule dans un espace et un temps délimités. Cet espace-temps particulier, il le nomme le cercle ludique.
Tout s'accélère. Sans une hésitation, notre joueuse s'assoit avec les autres personnes présentes autour d'un objet étrange. Un totem en bois, de taille, il est vrai, toute relative. Une femme, porteuse d'un t-shirt orange, debout, déclame des principes abscons avec de grands gestes des bras. Tous l'écoutent, visiblement concentrés. Je m'approche pour en tenter d'en savoir plus. Bonsoir. Pouvez-vous me dire ce que vous faites ici ?
Mais tais-toi, tu vois bien qu'on joue !
Contrairement à l'impression populaire, l'expérience prouve à Johan Huizinga que le jeu peut se pratiquer le plus sérieusement du monde. Concrètement, le jeu nécessite pour se dérouler que ses joueurs et joueuses y croient, ou du moins, fassent comme si tout le temps du jeu. Il nécessite l'implication de ses participants. Il est donc faux de restreindre le jeu à ce qui n'est pas sérieux. D'ailleurs, celui qui démontre la futilité ou le ridicule du jeu le ruine définitivement. Huizinga le nomme « briseur de jeu ».
Depuis des heures, hommes et femmes s'activent au centre du cercle. Des rires fusent, mais les mines sont graves. Le plus souvent, on entend les mouches voler, suivies parfois d'une exclamation.
« Et de 10, je t'ai eu !»
Notre joueuse se tourne alors vers moi et m'adresse un énorme clin d'œil.
« Viens, on s'amuse !»
Mais doit-on alors comprendre que chaque joueuse s'abandonne complètement au jeu, oubliant ainsi toute réalité ? Non pas. Même l'enfant qui joue sait qu'il joue. Il se prétend temporairement voleur ou gendarme, mais n'est pas dupe de sa propre supercherie. Comme si le jeu était une double mise à distance. Mise à distance du monde réel, retranché au sein du fameux cercle ludique, mais aussi mise à distance face au jeu lui-même, dans une sorte de mascarade librement exercée, mais consciemment ressentie. Pour Huizinga, c'est cet étrange rapport qui crée toute la force et la magie du jeu. Je fais semblant, certes, mais pour que le jeu fonctionne, je dois y croire tout en n'y croyant pas.
Le joueur, décidément, quel étrange animal !
Par extension, il en vient à qualifier d'attitude ludique toute mise en scène ainsi contrôlée. Un rapport trouble à la réalité qui constitue à ses yeux une force créatrice et symbolique. Le résultat de cette création, il l'appelle culture. De manière assez vertigineuse, Huizinga fait ainsi du jeu une notion incroyablement vaste, allant jusqu'à y inclure des pratiques aussi diverses que le sport, la danse, la musique et poésie, mais aussi les arts plastiques, la philosophie, ou même le droit, la politique et la guerre.
Et là, c'est le drame. Excédé par on ne sait trop quoi, un joueur s'énerve. Le ton monte. Je crains pour ma propre sécurité. Heureusement, un rire retentit bien vite. Puis un autre. La tension retombe. La partie reprend. Mais on a frôlé la catastrophe. Je rentre. À vous les studios.
D'après Huizinga, toujours, c'est quand l'homme oublie la distance du jeu, lorsqu'il se prend justement trop au sérieux, qu'il risque ainsi de nier toute culture et toute civilisation. Huizinga, en 1938, est inquiet et critique sur l'état du monde, à juste titre. Il tente dans Homo Ludens d'enjoindre hommes et femmes à jouer à nouveau, c'est-à-dire, en fait, à prendre du recul, en pure perte, comme le montrera l'histoire. Sur ces pensées toutes positives, je vous dis à bientôt, et d'ici là, faites comme vous implore Huizinga, jouez bien.
Merci à Cariatre pour cette chronique. Et toi, t'es sérieuse quand tu joues ou
Moi, pas trop. Moi, j'oublie d'être sérieuse. En tout cas, je ne joue pas spécialement pour gagner. J'ai repéré quand même, il y a des gens qui sont vraiment très très sérieux quand ils jouent et ils accordent beaucoup d'importance au fait de gagner, alors que moi, pas du tout. Probablement parce que je gagne pas très souvent, donc
Quand tu gagnes. Voilà. C'est mieux quand tu gagnes pas souvent de pas être mauvais perdant.
Mais voilà, moi, je suis pas du tout. Pour le coup, j'ai plein de défauts, mais pas. Je suis pas mauvaise perdante. Moi, j'aime vraiment le plaisir de jouer plus que de gagner. Après, si je gagne, c'est toujours cool, mais. Mais bon,
tu te lèves pas en criant quand tu gagnes, tu dis ouais, je vous ai tous eu, vous êtes tous nuls, ouais.
Non, j'évite parce qu'après.
Surtout avec les enfants, c'est ça.
Oui, si tu veux les faire pleurer, tu peux leur dire ça, mais je t'avoue même que parfois je les laisse un peu gagner. Je sais que c'est mal, mais c'est aussi pour les encourager. Discrètement, je les laisse gagner pour les encourager. Après, je trouve que la chronique est très intéressante parce que la définition du jeu qui est de dire que, enfin, le jeu, on y vient, c'est quelque chose auquel on consent librement, finalement dénué de contraintes. Ça nous renvoie toujours, enfin, est-ce que, à la question de savoir si le jeu peut s'y définir par opposition au travail, qui est quelque part l'opposé, puisque c'est on y vient quand même aussi par la contrainte, le travail, une contrainte économique. Et c'est assez intéressant puisque le travail a longtemps été, aujourd'hui est très très valorisé dans la société dans laquelle on vit, mais pendant longtemps c'était pas du tout le cas. Travailler était quelque chose de très mal vu puisque c'était les gens des classes les plus
pauvres.
Oui, c'était la noblesse, les nobles français ne travaillaient pas, c'était manquer à son rang de noble que de travailler. Et pareil, enfin le clergé ne travaille pas, enfin en tout cas c'est pas considéré comme un travail. Du coup, aujourd'hui, on a survalorisé le travail, alors que finalement, le jeu est ce qui est quelque chose auquel on vient librement. Et on peut se poser aussi la question de savoir, pour les gens dont le métier est de jouer, est-ce qu'on peut considérer que ça reste du coup du jeu, de la définition du jeu, à partir du moment où si tu es contraint à jouer pour enfin que ton travail consiste à jouer. Je me posais la question de savoir
si
ça peut
limite, voilà. C'est ça.
Je me dis, est-ce que les gens qui ne font que, par exemple, tester des jeux toute la journée, alors je sais pas si c'est un vrai métier, s'il y a vraiment des gens qui peuvent en vivre complètement, mais à quel moment
ils en essayent, hein, mais
ouais.
C'est
dur parce que c'est un problème après de ressources financières, mais je me dis, si t'étais vraiment obligé de faire ça tout le temps, est-ce que tu éprouverais toujours autant de plaisir et tu te sentirais pas contraint, tu le vivrais pas comme une contrainte?
Ouais, je ne sais pas. Ouais, si tu le fais pas de ton plein gré, ouais, c'est ça.
Ouais,
si
voilà.
Tu te dis, oh merde, encore un jeu à tester.
Oui, encore un jeu à tester. Bon, après, j'en suis à la 15e partie aujourd'hui, j'en peux plus, je sature. Si t'as pas cette possibilité de dire, bon voilà, j'arrête, c'est bon, j'ai bien joué aujourd'hui. Enfin voilà, est-ce que tu prends autant de plaisir? Est-ce que ça devient pas une corvée? Parce qu'on se dit toujours, ça doit être génial, oh, j'adorerais. Moi, je connais plein de gens qui disent ça avec les jeux vidéo, j'adorerais être testeur de jeux vidéo, mais je suis pas persuadée que si t'étais obligé de le faire, 8 heures par jour.
Joueur professionnel, quoi, de jouer 8 heures par jour.
Oui, voilà, ou ceux qui font de l'e-sport et qui s'entraînent, qui ont des contraintes, où ça devient contraignant avec des entraînements. Je sais qu'ils s'entraînent, ils ont des phases d'entraînement pour ceux qui jouent aux jeux en groupe, là, comme, à Splinter Cell ou les jeux comme ça, Counter-Strike plutôt.
Ouais.
Oui, c'est ça. Est-ce que du coup, quand ça altère ta vie et ta liberté, est-ce que ça reste du domaine du jeu?
Ça devient très philosophique, hein, ce podcast. je ne sais pas.
C'est
pour ça que moi, je veux pas trop travailler dans le monde du jeu.
J'ai cru que t'allais me dire, je veux pas trop travailler en général.
en général aussi, hein, ça. Si je pouvais avoir que l'argent, tu vois, sans avoir à travailler, ça me conviendrait aussi.
Ah oui, moi aussi.
Tu vois.
Oui, moi c'est surtout d'aller au travail qui me dérange. C'est pas tellement le travail en lui-même, c'est le fait de devoir y aller et de perdre beaucoup de temps en déplacement. Mais c'est le travail en lui-même, mais me gêne pas si je pouvais l'organiser librement. Comme quoi, voilà, on en revient toujours à ça, à la contrainte. Moi, c'est la contrainte des horaires, la contrainte du déplacement, la contrainte d'aller dans un bureau à un certain endroit. Si je pouvais travailler de chez moi et organiser mon temps librement, ça ne me dérangerait pas. Ouais. Et je pense que je le verrais plus comme une activité, finalement, comme le fait d'aller jouer. Donc, c'est vraiment là, je pense que la contrainte, c'est vraiment le critère qui détermine à partir de quel moment tu es dans une phase de jeu à laquelle tu adhères librement, au contraire du travail où tu es soumis à toute un corps de règles et de choses auxquelles tu ne peux pas échapper.
Oui, mais quand tu joues le jeu, tu l'as acheté, donc tu as dépensé des sous que tu aurais pu faire autre chose avec ça. Alors, est-ce que tu te sens pas obligé de l'apprécier et d'être heureux de jouer à...
Ah, ça, c'est je pense qu'il y a des jeux pour lesquels, quand tu as dépensé 120 euros dans un Kickstarter, que tu le reçois et que tu t'aperçois que c'est une grosse merde. Je pense que c'est dur de reconnaître que c'était nul et que tu as vraiment foutu en l'air 120 euros, quoi.
Voilà.
Oui, je pense qu'il y a une adéquation aussi entre l'argent que t'as mis et l'investissement affectif que t'as pu projeter dans un jeu. Et après, c'est pour ça que c'est toujours dangereux d'acheter des jeux sans les tester. Bon, moi, je le fais tout le temps, hein, donc.
Moi, j'essaye d'éviter maintenant.
Oui.
Mais bon, des fois, on peut pas éviter, mais...
Je pense que tu t'en rends bien compte, on a du mal à se l'avouer, mais quand le jeu ne ressort jamais et que c'est pas juste parce que t'as pas les bons joueurs autour de la table pour le sortir, c'est parce que ça te saoule un peu. C'est que tu, faut que tu te rendes à l'évidence que finalement, ce jeu-là te plaît pas tant que ça. Et puis il y a des jeux dont tu te lasses. Hein. Il y a des jeux qui sont lassants sur la durée. Ça s'explique pas. Moi, j'ai en tête quelques exemples de jeux que j'ai trouvé super bien sur les premières parties, et puis que j'ai trouvé de plus en plus laborieux à chaque fois qu'on y revient. Donc c'est, il y a aussi tes goûts qui changent. Il y a beaucoup de choses hein, qui entrent en ligne de compte.
Bah, je pense qu'on peut conclure sur pour cette émission. On a fait on a un peu digressé sur la fin sur philosophiquement.
Il faut qu'on tienne le niveau élevé
de nos chroniqueurs hein, parce que attention maintenant on peut pas raconter n'importe quoi, on peut pas faire de jeux de mots toutes les semaines.
Non, on peut plus ça. On va se faire remonter les bretelles après.
Voilà. Ok, bah, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-nous le savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook. Notez-nous sur iTunes, mettez-nous 5 étoiles et mettez-nous des commentaires. Et surtout, parlez de nous autour de vous. Nous, on se retrouve le mois prochain. Et en attendant,
jouez bien.